Terre à Terre, le magazine de l'environnement, ce matin, on part pour des zones de conflit. Zoé et Ferdinand Beau, on vous a rencontré il y a quelques mois. Vous prépariez à l'époque un voyage pour apporter des semences en Syrie. Depuis, ce voyage a été effectué. J'aimerais peut-être, pour commencer, que vous fassiez un petit résumé de l'épisode précédent pour nos auditeurs. Qui s'en charge ? Zoé Beau.
Donc la dernière fois qu'on s'était rencontrés, on était en plein milieu d'une tournée de cinéma itinérant dans les communes du sud de la France. On devait faire 2 mois de tournée, au final on a fait 4 mois de tournée, 40 projections, on a rencontré plein de personnes et on a beaucoup discuté du coup de la révolution syrienne puisque c'était un peu la thématique de notre tournée de cinéma. L'idée c'était aussi de lever un peu le voile sur cette révolution, à chaque fois on dit que c'est compliqué et tout, c'était de pouvoir un peu libérer la parole, se poser les questions entre nous et surtout d'apporter notre soutien à un collectif d'agriculteurs syriens qui a lancé en fait un appel au don de semences paysannes. Donc l'idée, c'était, pendant les projections, de parler un peu de ce collectif et de demander aux agriculteurs du coin, aux personnes qui font des jardins, des potagers, des petits paquets de semences qui venaient de leur jardin. Et on s'est retrouvés avec 1500 sachets de semences différents, tous emballés dans des containers complètement hétéroclites. On avait des petits sachets roses avec des petits cœurs, des choses très professionnelles. Et il a fallu ensuite procéder au tri de semences. Et peut-être Ferdinand peut vous parler de son tableur Excel complètement fou avec entrées multiples pour référencer tous ces sachets.
Je suis très étonnée qu'elle parle de votre tableur Excel et pas de votre camion, Ferdinand Beau.
Les deux étaient vraiment les outils complémentaires pour cette grande mission de faire traverser 4000 km à tous ces tout petits sachets et puis de les apporter dans des conditions à ce que les gens puissent se les approprier, ces graines, qu'ils sachent ce que c'est et que ça résonne avec leurs espèces à eux et qu'ils sachent de quelle année ils datent, de quelle région de France, qu'on puisse donner un peu des informations, des origines, etc.
C'est là que le tableur intervient.
Voilà, le tableur intervient tout à fait. Et puis la traduction. Parce qu'on avait un tableur de 1500 lignes en français, et après il a fallu traduire tout ça en arabe. Alors heureusement, on a embauché 2 Syriens dans le camion, comme ça on était enfermés ensemble dans un espace assez restreint pendant 10 de jours de route, et on bossait sur la route à traduire au fur et à mesure le melon variété Vieille France ou les différents haricots, c'était quoi, Rocky ? Où il y avait des noms de variétés absolument incroyables, on a bien rigolé.
La grosse blonde paresseuse a beaucoup fait rire quand on arrive en Turquie et qu'on a dû la transmettre aux Syriens.
Voilà, donc une bonne aventure, un camion des années 90 et qui a déjà fait 800 000 bornes. Donc pour lui, 4000 bornes de plus, c'était pas grand-chose. Hein. Mais les montagnes de Grèce, je pense, lui ont laissé un certain souvenir.
Laura Dupuis-Bresson, vous êtes associé à cette caravane un peu brinque-ballante, à quel moment ?
Ben un peu au départ, en tout cas dans le soutien, parce que moi j'ai rencontré aussi le collectif syrien dès les premières rencontres, mais sans forcément tout de suite être partie prenante, et puis après par la suite dans la tournée et dans les rencontres en Turquie avec eux.
C'est-à-dire vous êtes partie en Turquie avec eux ?
Ouais, tout à fait. Donc dans ce fameux camion, il faut dire que oui, il était petit, mais en fait on n'était pas seulement 3, mais plutôt 7.
Zoé Beau.
Donc nous, on faisait ce grand voyage avec nos 1500 petits sachets de semences pour répondre à un appel issu d'agriculteurs syriens mis en réseau sur le territoire. Donc ce réseau en fait est composé de personnes de plusieurs régions de Syrie différentes, essentiellement de régions qui sont ce qu'on appelle libérées, donc libérées de l'armée du régime, donc libérées de Bachar al-Assad, des régions sinon qui sont des villes ou des territoires qui sont en état de siège, par exemple je pense à Yarmouk dont on a beaucoup parlé pendant la tournée. Voilà, Yarmouk qui meurt de faim vraiment, qui se retrouve à devoir manger les feuilles des arbres, à cueillir les herbes folles, à cuisiner des chats. Et donc tout, en fait, l'appel au don de semences à l'international est issu de Yarmouk et entre en résonance avec d'autres régions qui subissent la même chose, donc une famine criante. Donc, lors de cette rencontre en Turquie, l'idée, c'était de pouvoir se rencontrer entre personnes qui répondent à cet appel à l'international. Donc, nous, de France, des personnes de Grèce, un réseau de semences paysannes qui s'appelle Peliti, des personnes issues d'une ferme collective près de Berlin, et un réseau de semences en Suède. Voilà, donc ça, c'était le côté plutôt européen. Ensuite, des Syriens qui sont installés en Turquie ou au Liban et qui travaillent...
C'est-à-dire qui ont fui la guerre, en fait.
Oui, bah, des personnes très actives qui ont fui la Syrie parce que pour elles, c'était très dangereux et qui sont aujourd'hui toujours partie prenante de la révolution à l'extérieur de la Syrie, qui travaillent aujourd'hui majoritairement pour des projets humanitaires, qui essayent de développer des écoles, des hôpitaux et des projets agricoles. Voilà, ce sont des personnes qui ont beaucoup de questionnements aussi autour de l'agriculture en Syrie. Comment est-ce qu'on peut agir dans des situations d'urgence? Comment est-ce qu'aussi on peut réfléchir au long terme, puisqu'on est dans l'urgence, mais il faut aussi pas détruire les sols, il faut faire attention à ce qu'on cultive sur place, aux méthodes utilisées. Il faut aussi se rendre compte qu'on n'a pas d'argent pour cultiver comme auparavant en Syrie, donc des grandes quantités avec beaucoup d'engrais chimiques, etc. Il faut réfléchir à une façon alternative de cultiver, revenir à quelque chose de beaucoup plus local, de beaucoup plus dirigé pour des petites familles, etc. Donc voilà, ce sont des personnes qui se reposent aussi aujourd'hui des questions sur comment faire de l'agriculture. Et c'est aussi ce à quoi nous, on avait envie de répondre. Et lors de cette rencontre, devaient aussi se rendre des personnes issues de Syrie. Mais malheureusement, pour elles, il a été extrêmement compliqué de venir et elles ont été bloquées à la frontière. Il faut savoir qu'il y avait quelqu'un qui a passé une semaine à camper devant le poste frontière et qui a réussi à se rendre à la rencontre seulement le dernier jour. Donc c'était quelque chose de très intense. Et c'est vrai que lorsqu'on s'est tous retrouvés le premier jour et qu'on s'est rencontrés pour la première fois, ça a été extrêmement émouvant.
Ferdinand Beau.
Ouais, c'est des zones dont on parle peu, dont on a peu d'informations, mais il y a plusieurs millions de personnes qui vivent hors de l'État syrien depuis 4 ans, hors des factions islamistes et qui se battent contre les factions islamistes de Daesh et qui expérimentent leur nouvelle vie politique. Ils découvrent la liberté dans énormément de thèmes différents de la vie parce que sous le régime baasiste, c'est un régime totalitaire qui était extrêmement présent dans tous les espaces de liberté des habitants, quoi, et notamment dans l'agriculture, extrêmement présent.
De quelle manière ?
C'est que, par exemple, la filière des céréales, elle est entièrement encadrée par des organismes d'État qui distribuent les semences, qui ont le monopole de l'achat des récoltes, que tout passe par eux, quoi. Et les produits de culture, les intrants aussi, ils passent par les appareils d'État. Donc, ils expérimentent la gouvernance locale aussi, et ils expérimentent le contre-pouvoir qu'ils doivent avoir sur les milices, parce que c'est des myriades de milices différentes qui sont parfois des milices de groupes villageois ou d'autres qui sont financées par des pays extérieurs. Donc voilà, c'est une zone d'expérimentation et ça fait 4 ans. Et c'est extrêmement intéressant et diverse, quoi. Et du coup, nous, on peut pas dire qu'on travaille avec un réseau qui est... Tout est exprimé, tout est décrit, on sait exactement où vont aller les graines, pour qui elles sont cultivées, etc. Mais en fait, on va les laisser se disséminer et s'aimer hein, là où les gens ils vont vouloir pouvoir se les approprier et les cultiver.
Oui, parce que ce que vous décrivez, ce sont des poches de liberté, mais qui sont quand même encore complètement enclose, quoi.
C'est ça aussi quand on demandait si ils sont dans la construction, ils sont aussi dans une pression constante qui est inimaginable, quoi, qui est énormissime. C'est les bombardements des zones civiles, les bombardements des champs, les snipers qui, quand ils ont dans leur champ de vision un agriculteur, ils vont tirer dessus. Et des parcelles de céréales qui, au moment de la récolte, on va envoyer un baril de pétrole dessus et tout s'enflamme. C'est tous les jours des bombardements sur les zones urbaines, etc. Et maintenant, avec les Russes, qui depuis 3 mois ont un arsenal de guerre énormissime, il y a vraiment, on ne les laisse jamais respirer et pouvoir construire, expérimenter ce qu'ils voudraient faire.
Mais alors, dans cette situation que vous décrivez, qu'est-ce que vous pouvez espérer faire entrer dans le pays ? Vous avez décrit la difficulté qu'il y avait pour les Syriens à sortir de Syrie. J'imagine que la difficulté est la même dans l'autre sens. C'est pas évident de rentrer non plus. Donc, ces semences que vous avez réussi à amener jusqu'à la frontière syrienne, est-ce qu'elles y sont restées bloquées ? Est-ce qu'elles ont continué leur chemin ? Laura Dupuy-Besson.
Non, elles ne sont pas restées bloquées à la frontière. Après, les passages de semences, elles se font par des réseaux militants qui sont organisés. Donc, c'est encadré, quoi. C'est pas de l'a priori ou quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des contacts, qui savent avec qui ils travaillent, qui sont créés des réseaux de confiance et qui vont arriver à faire passer, quand bien mal, ce qu'il faut. Après, avec toujours des moyens de se protéger, des petites quantités, en faisant attention à qui, avec qui ils communiquent et tout ça. Et non, les semences restent pas bloquées, ou alors pas longtemps, quoi.
Ferdinand Beau.
Ce sont eux la clé de voûte du réseau, quoi. Ce sont ces personnes qui arrivent à faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Je pense que c'est la chose la plus difficile, c'est que les forces politiques essayent de rendre imperméable et de créer un véritable huis clos dans ces zones entre l'intérieur de la Syrie et l'extérieur de la Syrie. Et il est de plus en plus difficile pour eux de faire passer des choses. Et c'est la force du réseau, c'est d'avoir des liens avec des personnes comme eux qui sont fiables. Et c'est eux qu'on doit protéger.
Zoé Beau.
Après, le parcours des semences est vraiment chaotique parfois. Enfin, c'est pas parce que eux sont des personnes qui ont des contacts que c'est facile de faire circuler les semences. On nous a quand même parlé des fois de 40 km de souterrains avec différents checkpoints au sein des souterrains. Donc, à chaque fois, il faut quand même donner un bakchiche. À chaque fois, il faut avoir conscience du danger. Il faut aussi savoir s'adresser à des factions différentes, à des milices différentes. Il faut savoir un peu, voilà, jongler entre les différents lieux, les différentes régions, ça reste très très difficile et assez instable.
Qu'est-ce que vous arrivez à faire passer, du coup, avec toutes ces difficultés? Ce sont des toutes petites quantités qui vont arriver dans un lieu, ce sont des espèces de bouteilles jetées à la mer dont on ne sait pas exactement ce qu'elles vont devenir. Ferdinand Beau.
Ouais, c'est hyper diversifié. Il va y avoir des régions, par exemple au nord, où il y a des camps de déplacés à l'intérieur, où on a des photos de leurs parcelles. On va avoir, si on le souhaite, vraiment beaucoup d'informations sur où est-ce qu'elles vont arriver. C'est relativement plus facile de les faire parvenir, etc. Par exemple, il y a une des filles qui était là pendant notre rencontre, qui on chatte ensemble sur WhatsApp. Parce que un des trucs qui est extra, qui est ordinaire, c'est qu'ils ont encore accès à l'internet par le téléphone, et du coup on peut chatter, s'envoyer des photos, discuter. Et elle nous a envoyé les photos de ses semis 15 jours après, quoi. C'était déjà parti dans un endroit qui est assiégé, dans une ville où il faut passer par tunnel, etc. Et où eux, ils doivent cultiver en intérieur dans les ruines. En fait, ils valorisent les ruines en cultivant à l'intérieur parce que comme ça, ils sont protégés ils sont à couvert, quoi.
Laura, du Puy Besson.
Ouais, c'est aussi l'idée peut-être de pas vouloir tout contrôler, tout encadrer tout le temps parce que, enfin, c'est pas nous qui imposons une organisation là-bas. Eux, ils s'organisent aussi. Et on sait, bien sûr, on sait ce que on veut pas non plus que les semences aillent n'importe où. Ça, on sait avec qui on travaille parce qu'on a rencontré ces gens et on leur parle au quotidien. Mais finalement, c'est l'idée aussi que eux, ils ont leur réseau d'agriculteurs autour d'eux et ça, c'est important aussi, même si ces gens-là, on les connaît pas physiquement, quoi.
Je me souviens que la première fois, on avait parlé du choix des semences. Et là, vous avez évoqué la grosse blonde paresseuse ou je sais plus quel type de laitue. Est-ce que véritablement, les semences qui arrivent sont celles qui étaient attendues, espérées? Est-ce que vous avez réussi à affiner un petit peu le tir par rapport à ça? Ou bien est-ce que vous envoyez juste tout ce que vous recevez dans des sachets avec des cœurs roses ou autrement?
C'est là-dessus qu'on doit travailler, qu'on a dû travailler par rapport à nos ressources de semences et par rapport à la demande et aux besoins. Donc on a eu la chance d'avoir deux productrices de semences paysannes qui font ça depuis une trentaine ou une vingtaine d'années, qui étaient bien expérimentées, qui sont venues avec nous, enfin qui nous ont rejoints à la rencontre et qui ont retrié toutes les graines et qui malheureusement pour tout ce qu'ils nous ont donné, il y a une bonne partie des graines qui a dû être mise de côté pour leur potentiel germinatif qui avait l'air d'être pas top ou voilà. Donc ils ont fait un travail là-dessus, un travail sur les espèces qui a priori fonctionneraient mieux que d'autres et qu'on a dû enlever les endives par exemple où ça demande des étapes assez compliquées, les salsifis ou quoi qui à mon avis sont inconnus là-bas. Donc on a fait en fait un travail de tri à la fin. Et aujourd'hui, notre exigence, c'est l'exigence du réseau, parce que maintenant, c'est plus nous deux, mais c'est tous les gens qui sont appropriés ce réseau-là en France. On veut avoir une véritable exigence sur qu'est-ce qu'on veut apporter, et je pense avoir moins de diversité et plus de précision sur les espèces et les variétés, quoi.
Et les quantités ?
Et les quantités, on va évoluer au fur et à mesure de ce qu'on peut faire, quoi. On bosse pas avec des professionnels de ça, tu vois. À côté de nous, il y a la FAO, il y a les ONG humanitaires qui c'est leur métier, dès qu'il y a une guerre, d'aller sur un nouveau marché pour eux, avec leurs bailleurs de fonds et qui ont des bases de semences qui, elles, sont hybrides. et qui sont distribuées avec des volumes énormes, quoi.
Semences hybrides, c'est-à-dire semences qu'on ne peut pas ressemer l'année suivante.
Semences que les paysans peuvent ressemer, mais qui malheureusement vont être dégénérescentes.
Oui, mais Zoé Beau.
Oui, pardon. Juste pour revenir un peu sur les semences et notre absolue diversité quand on est arrivé. Moi, je me souviens quand même de nos deux productrices de semences qui ont essayé de vraiment convaincre que l'aubergine blanche était la meilleure des aubergines et quelque chose de fabuleux, et vraiment du dégoût absolu des Syriens en face qui n'en voulaient absolument pas, ou alors de nos magnifiques 150 kilos de pois chiches noirs pour lesquels on a lutté pendant le transport et tout ça, et que vraiment ils nous ont dit « Mais attends, mais moi, quand j'ai du pois chiche, dès qu'il y a un grain noir, je le jette à la poubelle et je veux plus en entendre parler, quoi. » C'est aussi grâce à ça qu'on sait, nous, comment nous diriger par la suite, et on a très envie d'évoluer et surtout d'aller dans leur sens, tout en continuant à parler évidemment de diversité.
Si ce n'est que j'imagine que les difficultés vont aller croissant avec la croissance des quantités. Et puis, le voyage, il n'a pas été si simple, quoi. Il y a eu ce que vous décriviez, l'arrêt à la frontière et la difficulté pour vous rencontrer, mais tout du long, ce n'est pas un voyage évident. Vous allez continuer avec votre camion brinque-ballant et votre tableau Excel, là.
On va essayer d'améliorer. Après, c'était une belle expérience à chaque fois, mais c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie et il faut conduire ces 4000 bornes, il faut mettre l'essence dans le camion et il faut assurer le passage de la frontière.
Des frontières.
Et à un moment, on nous a proposé de prendre un bateau, un voilier pour y aller. Et c'est repoussé à plus tard, ce projet, mais ça aurait été, je pense, une très belle chose de trouver d'autres moyens que le camion ou l'avion pour aller jusque là-bas. Et là, c'était l'idée de remplir un voilier de semences et puis d'avancer au fur et à mesure des côtes, refaire le trajet de la Méditerranée qui, aujourd'hui, cette mer, elle est devenue une zone de transit, et son rôle de route, quoi, il est réapparu beaucoup plus fort depuis 2 ans avec toutes ces gens du Proche-Orient qui cherchent à s'éloigner de la violence et à pouvoir vivre... Voilà, ils ont changé pour nous l'image de la Méditerranée, et puis on peut du coup utiliser le même moyen dans l'autre sens, quoi.
C'est beau cette image que nous donne Ferdinand Beau de ces semences qui voguent sur la Méditerranée, redevenues un couloir de circulation. Mais justement, la suite, comment est-ce que vous l'imaginez au-delà de ce bateau ? Est-ce qu'il va y avoir constitution d'un réseau ? Est-ce que vous allez vous tourner vers les autorités européennes pour essayer d'amplifier encore votre action ? Laura Dupuy-Besson.
L'idée, c'est quand même maintenant de... C'est pas trop de professionnaliser, mais c'est de permettre une réflexion qui n'est pas autour d'un tout petit groupe, en fait. C'est d'élargir cette réflexion que les gens ont eue plus largement dans des réseaux en France, en Europe. Et voilà. Après, se tourner vers les autorités européennes est un peu compliqué, sachant que justement, c'est ça qui nous pose problème.
De quelle manière ?
C'est parce que c'est totalement interdit, en fait, tout simplement, ce déplacement de semences. Et ça pose des questions sur ce que soutient, en fait, l'Europe dans ses politiques agricoles. Est-ce qu'elle soutient pas ? Parce que toutes les semences sont pas bloquées non plus. Et une grosse partie du travail et de difficultés qu'on a eues, c'était déjà en Europe, en fait. Et ça, nous, ça nous a posé beaucoup de questions.
Plus précisément, ce qui est interdit, ce sont les échanges de semences et les dons de semences qui ne sont pas certifiés, qui ne sont pas au catalogue des grands semenciers, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Soyez beau ?
Oui, donc après, c'est vrai que aussi, également l'enjeu de toute cette tournée, c'était de rencontrer des personnes...
C'était, ça reste, puisque vous continuez.
Oui. Tout à fait, mais la tournée de cinéma en tant que telle, les 4 mois de tournée, les 4 mois de rencontres, les 4 mois de soirées qu'on a organisées avec des communes, des associations, des collectifs, etc. L'enjeu était aussi de rencontrer des personnes pour qui le projet rentrait en résonance et qui auraient envie de travailler avec nous justement à ces questions-là, à l'enjeu de la semence paysanne en temps de guerre, à cette espèce de mainmise des politiques sur les constitutions à réécrire post-conflit, enfin voilà... C'est vrai qu'on a rencontré des agriculteurs au Mali, en Colombie, une personne aussi qui travaille sur le cas du Kurdistan irakien, qui nous ont un peu montré que finalement ça se répète et que l'enjeu agricole rentre tout de suite en compte dès le début du conflit, que les ONG humanitaires en profitent pour déverser leurs semences pourries sur le territoire, etc. Donc voilà, nous on a envie aussi, en plus que ce transport de semences et rencontres agricoles, etc., de travailler plus profondément sur ces questions-là et de pouvoir élargir, peut-être de travailler, nous, avec des personnes qui réfléchissent à ces thématiques, pas que en Syrie, mais ailleurs dans le monde.
Juste, j'aimerais peut-être, pour conclure, revenir sur un point que vous avez à peine évoqué, et je trouve que c'est peut-être important de le décrire un peu plus, un peu mieux, c'est ce qui se passe à Yarmouk. Rappelez ce que c'est que Yarmouk et décrire ce qui s'y passe aujourd'hui. Ferdinand Beau.
Yarmouk, c'est comme une allégorie de ce que vit la Syrie en général, avec une histoire particulière qui est que c'est un camp de la première génération des réfugiés palestiniens en Syrie. Donc c'est un quartier de Damas. Il y a d'autres camps palestiniens à Damas. Yarmouk, c'est le plus grand et c'est un peu la capitale palestinienne culturelle ou des dynamiques pour le Proche-Orient, quoi, hors du territoire palestinien. Et à Yarmouk, avant la guerre, vivaient des gens qui n'étaient pas palestiniens, etc. C'était un endroit très dynamique.
Mais citadins.
Des citadins. C'est-à-dire, c'est un camp, mais de béton, qui, comme on n'agrandit pas l'espace géographique, monte en hauteur au fur et à mesure des années.
Avec des ruelles extrêmement étroites.
Exactement. Et Yarmouk s'est retrouvé dans la révolution et ils ont décidé d'essayer d'expulser les forces du régime de ce quartier-là. Il faut savoir que l'histoire du régime avec la lutte de la Palestine est extrêmement complexe, qu'il se donne une justification politique sur la lutte pour la Palestine et en fait il l'utilise pour ses objectifs politiques. Du coup, ça a créé il y a des milices pro-Bachar qui existaient, il y a eu des combats, etc. Et les habitants de Yarmouk ont réussi à expulser tous ces groupes-là et à créer une zone qu'ils appellent libre à l'intérieur du territoire. Ce qui a complètement hérissé le pouvoir et qui a décidé de bombarder la zone et d'établir un état de siège total. Donc il y a eu 2 années de siège avec des coupures d'eau qui parfois duraient plus d'un mois et une famine avec Amnesty qui compte plus d'une centaine de morts de faim et de malnutrition et une situation vraiment vraiment difficile. Donc Yarmouk a lancé ses jardins partagés. Ils ont nettoyé des décharges publiques, ils ont mis en culture les toits, etc. Et pour la deuxième année, ce qui en est ressorti, c'est que ça a vraiment joué un rôle pour les problèmes nutritionnels de la région. Après, ce qui s'est passé en avril dernier, c'est que Daesh a envahi le camp d'Yarmouk jusqu'à 90% du territoire, alors que le régime encerclait et tenait un siège tout autour de du quartier. Ce qui pose de véritables questions sur les liens entre le régime et... Et il y a eu des assassinats ciblés à l'intérieur du camp de Yarmouk, ou des activistes, et notamment ceux qui ont créé les jardins partagés. Et ensuite, les forces locales ont réussi à libérer à nouveau une certaine partie du camp, mais ils ont perdu énormément de monde à ce moment-là. Et voilà, depuis cette période-là, c'est assez flou pour nous ce qui se passe à l'intérieur, mais ils sont toujours sous siège. Et voilà, l'hiver maintenant est extrêmement dur. Il y a la neige sur la Beka au-dessus, il fait froid. Et ils continuent donc à cultiver et à essayer de survivre tant bien que mal à l'intérieur du camp.
C'est vrai que compte tenu un peu de la situation d'Yarmouk, on a eu la possibilité pendant la rencontre en Turquie de préparer un gros sac de semences pour Yarmouk. Donc on a essayé de prendre en compte donc tous les paramètres pour que les semences puissent pousser à Yarmouk. Donc l'hiver très dur, la zone ultra urbanisée, les coupures d'eau, etc. Donc on a essayé de sélectionner comme ça des plantes très résistantes. Et on nous a demandé notamment pour Yarmouk beaucoup de fleurs. Donc on a essayé de faire un beau panel dans ce sac et voilà, on attend encore les résultats. Mais c'est vrai que moi, la sensation au moment où on a fait les sacs avec les gens, qu'on choisissait les semences ensemble, sachant pour quelle région ça allait, c'était hyper fort comme moment, quoi. De avec toutes les photos qu'on voit, toutes les images qu'on a, d'imaginer les plantes pousser, c'était le plus beau jour de la rencontre, c'était la distribution des semences.
France Culture, terre à terre.
Ruth Stegassi.
Bénédicte Bonzi, vous êtes anthropologue. Vous avez fait votre mémoire sur le blé dans la tourmente, la violence sur le paysage du Kurdistan irakien. Et cette question des semences et de l'agriculture dans la guerre, je trouve que c'est une question à la fois extrêmement intéressante et très peu traitée. Donc j'aimerais que vous nous résumiez, que vous nous racontiez un peu ce terrain que vous avez fait, puisque vous êtes allé au Kurdistan, 2 fois même. Alors peut-être déjà, en très peu de mots, nous rappeler ce que c'est que le Kurdistan irakien.
Alors le Kurdistan irakien, c'est une zone de l'Irak qui aujourd'hui a obtenu une autonomie politique mais qui n'est pas une zone indépendante et qui en fait correspond à une partie où réside la population kurde qui est divisée sur 4 pays qui sont la Syrie, l'Iran et la Turquie. Sachant qu'on ne peut pas parler de peuple kurde ou de grand Kurdistan, c'est plutôt une idée qui a été amenée par l'Occident et qui n'est pas la leur, où il n'y a pas vraiment de cohésion de groupe ou de revendication commune à l'heure actuelle. Donc on a un Kurdistan irakien, donc une zone où les Kurdes de cette zone, surtout sur ces derniers temps au niveau de la dynamique politique, essayent un petit peu de tirer leur épingle du jeu pour obtenir l'indépendance. Et dans cette question du blé, finalement, cette recherche de l'indépendance est assez intéressante parce qu'elle va nous permettre de comprendre certaines stratégies et de pouvoir regarder plus précisément pourquoi les gens se rallient à telle ou telle instance politique au niveau international.
Alors les guerres dont vous parlez et qui ont conduit à cette autonomie, justement, il y en a eu plusieurs. Vous remontez de quelques décennies et puis il y a eu évidemment la guerre d'Irak de 1991. Mais effectivement, ça a commencé avant ce sur quoi vous travaillez.
Oui, j'ai commencé à m'intéresser aux questions agricoles à partir de 1948. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est à partir de cette date que j'ai trouvé le plus de données. Comme je ne parle pas l'arabe, en français et en anglais. Donc je me suis appuyée là-dessus pour commencer mes recherches. Et ne serait-ce qu'en partant de là, ce qui a pu me surprendre dans cette recherche-là, c'est que autant on a pu arriver à un arrêt de la violence sur l'homme, après l'invasion américaine, en tout cas pour le Kurdistan irakien, et je pense que c'est pas du tout valable pour le reste de l'Irak, on a à cette période une forme de paix qui s'installe. Mais si on observe ce qui s'est passé par rapport à l'agriculture et par rapport à la vie paysanne, on n'a pas de discontinuité ou de baisse de cette violence, mais on a au contraire de nouvelles formes d'attaques plus froides, mais une continuité à travers des systèmes d'appropriation du vivant et de mainmise au niveau du marché international et un peu de gouvernance qui transforme une économie de la subsistance qui était en place avant l'ensemble de ces conflits et qui, après ces conflits, va pas pouvoir revoir le jour, mais être substituée à une économie de marché internationale dans laquelle les petits paysans n'ont pas leur place.
Vous parlez de violence, Bénédicte Bonzi. Peut-être que vous pourriez nous donner quelques images de ce Kurdistan irakien où vous êtes allé et dont vous dites qu'il est le berceau de l'agriculture.
Les images forcément qui me viennent, c'est celles qui font écho à la politique des terres brûlées qui a été menée par Saddam Hussein. C'est une violence qui a attaqué le paysage et qui est encore visible à l'heure actuelle. Donc ça vient couvrir plein de questions et ça vient surtout amener à un paysage dépaysannés, dans lequel on n'a plus de paysans qui peuvent vivre dans la terre, pour plein de raisons. Parce que déjà, il y a beaucoup de mines. Et parce que la politique des terres brûlées au Kurdistan irakien, ça a été la destruction de 4500 villages sur les 5200 existants. Donc la destruction qui a eu lieu est réellement énorme. Et dans ce qui concerne la reconstruction, on va avoir une répartition en fait de villes ou de pôles qui ne correspond pas au village d'avant, avec des maisons qui sont plus les maisons d'avant. Alors quand je dis avant, c'est avant tous ces conflits, avant les nombreux déplacements, parce que dans les violences, il y a aussi une violence énorme de déplacer les personnes de leur terre. Et peut-être que c'est intéressant de revenir sur ce point-là parce que l'agriculture et le paysan, c'est une relation. Et c'est une relation très fine qu'a une famille même souvent, au sens élargi, avec une terre, avec des semences. Et du coup, c'est tout un ensemble qui vit en interdépendance avec des relations. Et les déplacements qui ont eu lieu de ces populations rompent ces liens-là. Les politiques de collectivisation de la terre rompent ces liens-là. Le fait de s'approprier les semences, ça rompt ces liens-là. Donc on voit en fait qu'il y a différents niveaux de violence qui en fait ont un impact très fort entre l'homme et son environnement dont on le coupe. Et en coupant cette relation-là, eh bien, on va, en tout cas, moi, c'est des personnes que j'ai rencontrées qui sont déracinées. Et le déracinement, c'est réellement une souffrance. Et une souffrance qui, aujourd'hui, au Kurdistan irakien, a du mal à être reconnue.
Alors, je vous ai demandé de me parler du paysage et vous me parlez des êtres qui peuplaient autrefois ce paysage. Il y a une phrase qui m'a frappée dans votre mémoire, c'est le paysage n'est plus habité, il est occupé.
Ben, c'est un petit peu ce qui apparaît surtout quand on arrive dans les villes, où il y a le sentiment que les bâtiments ont été posés comme un jeu de construction, avec même des bâtiments colorés, des grands blocs verts, des grands blocs bleus, des grands blocs roses, et sur des terres agricoles. Donc on a comme ça ce sentiment que les choses sont posées sans qu'il y ait une réflexion en fait sur qu'est-ce qui doit servir à quoi. Alors ça me permet de revenir à la politique des terres brûlées et d'aborder le fait qu'il y a eu, comme on l'entend, la destruction des maisons, la destruction des semences, la destruction des récoltes et le fait aussi de boucher les sources d'eau avec la destruction du bétail. Donc c'est sur cet ensemble-là où derrière le paysage est forcément violemment marqué parce que l'eau, en fait, c'est aussi dans ces zones-là ce qui apporte la vie et ce qui permet de survivre et d'avoir un espace fertile. Donc le fait d'avoir bouché ces sources et le fait de ne pas pouvoir revenir en arrière, donc le côté irréversible de ces destructions, font que forcément, il y a dans la reconstruction quelque chose d'assez incohérent dans ce paysage-là. Et en tout cas aussi sur le témoignage des paysans, ce qui était frappant, c'est qu'ils me montraient en fait leur champ et puis cette espèce de... comme une frontière avec la ville qui n'arrête pas d'avancer. Et puis on a des grues et une ville qui mange en fait sans arrêt sur ces terres agricoles. Et ils savent bien que le reste des terres soit sont minées, soit sont pas fertiles. Donc il y a un côté de cette destruction qui continue et sur laquelle ils peuvent rien faire encore aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette folie destructrice que vous êtes en train de nous décrire, Bénédicte Bonzi, et qui remonte au début des années 90? C'est bien ça, c'est Saddam Hussein qui a fait cette politique des terres brûlées que vous êtes en train de décrire et dont on se demande quelle est la finalité.
Donc l'objectif de Saddam Hussein, c'était de parvenir en fait à contrôler cette zone, parce que le Kurdistan irakien, c'était le grenier à blé du reste de l'Irak, puisque c'est la zone la plus fertile de l'Irak. Alors une zone fertile, c'était une polyculture vivrière avec des légumes, avec des fruits et beaucoup de céréales, bien sûr. Donc pour Saddam Hussein, c'était important d'arriver à contrôler cette zone, mais cette zone arrivait à ne pas être contrôlable parce qu'il y avait une autonomie alimentaire, donc cette économie de la subsistance où les paysans pouvaient nourrir cette armée résistante kurde, les Peshmerga, qui du coup résister à l'intervention de Saddam Hussein, à la collectivisation et toute cette folie de contrôle. Et le plan que visait Saddam Hussein pour l'Irak et qui peut encore aujourd'hui être un petit peu mis en avant, c'est le fait d'être sur du pétrole. Donc c'est la même chose pour le Kurdistan irakien, donc d'avoir une espèce d'économie de la rente pétrolière, ce qu'on appelle la malédiction du pétrole, et donc de se dire, ben, puisqu'on a tout ce pétrole, on n'a pas besoin de faire la tâche ingrate qu'est le travail agricole, et on pourra l'importer.
Importer la nourriture.
Donc on rentre dans ce cadre-là où finalement on se rend dépendant. Et ce qui se passe aujourd'hui au Kurdistan irakien, c'est bien ça, c'est au moment où on a une autonomie politique, on perd l'autonomie alimentaire et on devient dépendant. Là, pour le chiffre, il est quand même flagrant, c'est 80% de l'alimentation du Kurdistan irakien qui est importée.
Alors qu'avant, le pays était autosuffisant.
Alors ça a décliné petit à petit, c'est difficile de savoir où on en était, vu tous les conflits qu'il y a eu. Donc il y avait de l'autosuffisance sur pas mal de produits. Il y avait aussi, moi, ce que j'ai pu réaliser, c'est que nous, en y allant avec des questions très occidentales, alors vous étiez tous agriculteurs, vous cultivez ça, ça marche pas. C'est-à-dire qu'en effet, tout le monde avait un jardin, tout le monde avait de la production, mais personne ne se considérait pour autant comme étant agriculteur. C'était, voilà, on avait un jardin et on pouvait manger dessus et on partageait et on cultivait le blé ensemble, mais on n'était pas agriculteur pour autant, on pouvait avoir une autre activité. Et aujourd'hui, ce qui fait que ces activités très solidaires, hein, qui fédéraient vraiment du lien et qui permettaient une entraide, une cohérence sociale, ont disparu du fait de l'aide internationale. Donc à travers la résolution 986 de l'ONU, le programme Pétrole contre nourriture, on a une arrivée gratuite de nourriture. Alors si on prend le cas du blé, aujourd'hui on a 9 kilos de farine qui sont distribués, attribués par personne et par mois.
Mais attendez, Bénédicte Bonzi, parce qu'on pourrait penser que c'était plutôt une bonne nouvelle, puisque ce que vous avez décrit précédemment était assez effrayant. Des terres brûlées, des récoltes détruites, des sources bouchées, du bétail tué également, des villages rasés. Donc il fallait bien, à un moment, nourrir cette population qui était déplacée et qui ne pouvait plus subvenir à ses besoins.
Alors, c'est là où moi, j'ai trouvé finalement l'intérêt aussi de cette recherche-là, d'aller essayer de comprendre le sens qu'avait eu cette aide. Puisque finalement, cette question-là, elle m'a été posée par une Kurde irakienne à Londres, qui m'a carrément dit « Mais ce programme-là, ça a été la destruction de l'agriculture. »
Le programme d'aide alimentaire.
Ouais. Alors pourquoi elle m'a dit ça? Parce que dans le contexte, et puis je l'ai compris après ailleurs à travers d'autres discussions, on était dans un contexte de double embargo pour le Kurdistan irakien, c'est-à-dire qu'il subissait, comme le reste de l'Irak, l'embargo de l'ONU par rapport à l'invasion du Koweït, et il subissait l'embargo de Bagdad du fait qu'ils étaient kurdes. Et dans les années 90, 91, 92, on a une reprise de l'agriculture donc, au Kurdistan irakien qui répond à l'embargo de Bagdad et à l'embargo de l'ONU. Et puis avec l'arrivée de l'aide alimentaire à travers le programme Pétrole contre nourriture, arrive de manière gratuite les choses que les paysans essayent de remettre en place dans leurs champs.
Ces fameux 9 kilos de farine que vous évoquiez tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Donc il y a de la farine, du sucre, de l'huile, des produits de base en fait. Et les paysans vont parler à ce moment-là de triple embargo parce qu'on aurait pu imaginer que dans le cadre du dispositif de cette aide, on aille taper à la porte des paysans en disant « Alors on s'adresse à vous pour remplir ce qu'ils appellent le food basket ». Mais c'est pas ça qui s'est mis en place. Il y a eu un embargo des propriétaires, des riches propriétaires actuels de terres au Kurdistan irakien, qui finalement se réappropriaient les terres cultivées par les paysans et qui, du coup, les ont exclus de ce marché-là en mettant en place d'autres systèmes dans lesquels ils allaient faire entrer une production de blé et se lancer dans d'autres dispositifs qui ont complètement transformé l'agriculture au Kurdistan irakien.
Mais là, une production de blé importée, pour le coup.
Oui, avec une production de blé importée et qui s'est accompagnée de la perspective d'un programme, donc le programme pour l'agriculture au Kurdistan irakien, qui a fait suite donc à la commande qui a été passée à la FAO et à l'USAID, qui a été mandatée pour ça, donc qui ont du coup fait un rapport dans lequel ils disaient que l'agriculture du Kurdistan irakien n'était pas rentable et que donc elle devait être modernisée en proposant donc des nouvelles techniques agricoles et une modification du territoire, pas du tout par rapport à une enquête fine de terrain sur qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce que les gens avaient besoin, mais par rapport au modèle californien, puisque c'était en comparatif avec ce qui se passait aux États-Unis, une étude commandée où ceux qui intervenaient étaient des Américains, donc ils se sont appuyés sur ce qui se passait plutôt là-bas pour proposer ce nouveau modèle avec des larges étendues de blé et une agriculture avec une forte irrigation. Ce qui du coup a forcément exclu tout ce qui était petite agriculture et puis surtout que le blé était plutôt pensé et cultivé sans irrigation. Que le fait d'aller vers un blé plus rentable et qui ait besoin de beaucoup d'eau, forcément, il n'y a que ceux qui ont eu les moyens d'investir qui ont pu s'engouffrer dans cette proposition du gouvernement du Kurdistan irakien et des Nations Unies.
Il y a une question qui se pose, évidemment, Bénédicte Bonzi, c'est celle des semences. Vous avez dit tout à l'heure que les récoltes avaient été brûlées, donc il y avait une difficulté à ressemer les semences. Est-ce que tout de même, les petits paysans, tous ces gens qui ne se disaient pas agriculteurs, avaient conservé des semences? Et en fait, j'ai une deuxième question qui est très liée, vous allez le voir, à celle-ci. Il y avait en Irak une banque de semences extrêmement célèbre, la banque d'Abu Ghraib, qui est célèbre pour sa prison terrible, mais qui était en fait un lieu où étaient conservées des semences extrêmement diverses et très admirées de toute la région. Cette banque, elle a disparu, je crois.
Alors, c'est un des points de départ de cette recherche, c'était le fait d'avoir entendu que lors de l'invasion des Américains en Irak, la banque des semences avait été une des premières structures bombardées. Donc, comme c'est pas possible de se rendre à Abu Ghraib aujourd'hui, en tout cas ça l'était pas pour moi, j'ai pas pu vérifier si en effet ça avait été une des premières structures bombardées. En tout cas, ce que j'ai pu apprendre, c'est que les semences, avant le bombardement, avaient été préservées et protégées par une femme du ministère de l'Agriculture, que ça avait été donc transféré en Syrie, à Alep. Et puis, forcément, avec les éléments qui se passent aujourd'hui à Alep, que sont devenues ces semences, pour être bien en sécurité, il avait été pensé déjà de les dupliquer et d'en mettre une partie en conservation donc chez Rockefeller, en Norvège.
C'est Svalbard, cette fameuse banque dans l'iceberg.
Voilà, c'est ça. Donc on a d'une part cette conservation qui se fait de manière très statique dans un congélateur, et d'autre part on a des nouvelles semences donc plus rentables. Alors comment elles arrivent? Par tout un dispositif qui du coup fait qu'on choisit des semences sélectionnées. Aujourd'hui, au Kurdistan irakien, j'ai retrouvé 6-7 semences mises en culture. Donc on est bien loin des milliers de variétés qui étaient cultivées avant. Sachant que dans les ordres brémères, qui sont en fait des ordres provenant des Américains lorsqu'ils ont quitté l'Irak, ils en ont fait 100. Il y en a un qui concerne l'agriculture, qui est le numéro 81, et qui met en place le principe de propriété intellectuelle donc sur les plantes, avec cette interdiction de ressemer. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui est aujourd'hui en vigueur, mais c'est quelque chose qui existe et qui fait loi, et qui du coup, en cas de contrôle, pourrait venir dire aux paysans « Attention, vous n'avez pas le droit de semer cette graine parce qu'elle n'a pas été autorisée aujourd'hui. »
Mais du coup, pardonnez-moi parce que je vous pose trop de questions à la fois, mais vous n'avez pas répondu à la première partie de ma question qui était « Est-ce que les paysans avaient conservé des semences ou bien est-ce qu'ils les avaient perdues? Est-ce qu'ils avaient tout perdu dans tous ces événements ?»
Alors, j'ai posé la question à chaque fois que je voyais un paysan, je lui demandais s'il avait pu conserver quelque chose. Et tous levaient les yeux en me disant « bah non, on fuyait ». Puis ils n'ont pas fui qu'une fois, en fait. Ils ont été déplacés de nombreuses fois, donc ça paraît très difficile. Après, ce qu'ils m'ont aussi tous dit, c'était d'aller à la frontière iranienne, que là, ils pensaient qu'il y avait des choses qui avaient pu être conservées et qu'on pouvait retrouver, en fait, des variétés anciennes à la frontière iranienne. Mais eux, ceux que j'ai rencontrés dans la région d'Erbil ou proche de Kirkouk, ils n'avaient rien pu conserver.
Donc, en tout cas, ça signifie que, de toute façon, ils n'ont pas le choix et ils ne peuvent que prendre ces nouvelles variétés qui viennent de l'étranger et sur lesquelles il peut y avoir des droits de propriété intellectuelle. C'est quand même ça le résultat de toute cette affaire.
Ah ben, en plus, ils y sont fortement encouragés. Donc aujourd'hui, il y a une politique très particulière autour du blé au Kurdistan irakien. Bon, ça concerne l'ensemble de l'Irak. Donc les semences sont proposées, et on est fortement encouragé à utiliser les variétés proposées par donc Bagdad et la FAO. Et en fait, il y a une politique de rachat. Et cette politique de rachat consiste à payer aux producteurs deux fois le prix du marché, le blé qui est récolté. Donc, forcément, les gens vont cultiver les variétés qui seront rachetées. Donc, on perd aussi une diversité par rapport à ça. La question qui se pose à travers ce processus, c'est que finalement, on a un marché du blé en Irak et au Kurdistan irakien, qui ne marche que par rapport à la politique actuelle de Bagdad, parce que c'est un prix qui n'est absolument pas le prix du marché, donc qui ferait qu'il n'y aurait aucune débouchée pour ceux qui le produisent. Alors moi, j'y vois une forme de déguisement, en fait, de redistribution de la rente pétrolière. C'est-à-dire que comme ceux qui peuvent se remettre à cultiver sont ceux qui ont les moyens de rentrer dans un système agricole assez coûteux, bah ça reste des riches familles et du coup c'est une forme de redistribution de l'argent du pétrole puisque c'est eux qui participent à cette activité-là.
Un système assez coûteux parce que gourmand en intrants, gourmand en irrigation, vous le disiez.
Oui, c'est ça, parce qu'il faut acheter les semences, du coup, parce qu'il faut préparer les terres et du coup utiliser des engrais, parce qu'il faut avoir l'irrigation et du coup ça coûte de l'argent d'arroser. Et il y a un système, j'ai pas eu le temps de creuser, mais je pense qu'il est très inégal dans le fait de faire arriver l'eau sur certaines zones ou pas. Il y a un programme qui dit on va faire en sorte que tout le monde ait accès à l'eau. Mais dans les faits, j'ai plutôt l'impression que l'eau arrive seulement chez les amis du prince, entre guillemets. Donc il n'y a pas une répartition qui permette réellement à ceux qui voudraient se remettre à cultiver de pouvoir le faire.
Et que deviennent tous ces petits paysans que vous avez décrits, Bénédicte Bonzi, dans ce nouveau dispositif?
Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent? Pour beaucoup, ils sont chômeurs. Ils ne retrouvent pas réellement d'activité. Il y a aussi beaucoup de petits emplois à mi-temps pour le gouvernement. Toujours pareil, une forme de redistribution de l'argent du pétrole. Ça se passe un petit peu par famille ou par tribu. Alors, j'ai pas eu le temps de faire une analyse fine de ce système économique, mais on voit dans les familles qu'il y a une place pour telle ou telle personne au niveau d'un ministère, au niveau d'une autre structure de l'État. Et puis, il y a aussi de l'argent qui est donné pour les victimes de guerre. Après, il y a un fort changement au niveau démographique. On est sur un pays dont la moyenne d'âge est de 20 ans, où beaucoup de personnes ont fui et ne sont pas revenues. Donc, il y a aussi, dans ces anciens paysans ou petits paysans, des personnes qui ne sont pas rentrées, en fait, dans le pays, ce qui pose la question aussi de la retransmission ou de la transmission tout court des savoir-faire qui n'ont pas pu se faire aujourd'hui et qui sont une vraie question puisqu'on avance en termes de génération et de connaissances qui aujourd'hui semblent perdues ou en train de se perdre.
J'aurais peut-être, pour terminer, que vous évoquiez une autre image assez frappante dans votre mémoire, Bénédicte Bonzi. Vous décrivez un voyage que vous faites en voiture et on vous a parlé d'une cascade extraordinaire. Avant d'arriver à cette cascade, vous avez traversé des paysages assez désolés, des lieux où on a du mal à imaginer qu'il a pu y avoir cette agriculture fertile que vous évoquez. Et puis, vous arrivez à cette fameuse cascade.
Alors ouais, j'ai été en fait très surprise dans ce trajet. Déjà parce que je m'imaginais en fait tout autre chose que cette cascade-là. Et finalement, j'ai eu l'impression d'arriver dans un lieu artificiel juste construit pour le tourisme, qui n'avait plus rien à voir avec les lectures que j'avais pu avoir ou les paysages qu'on m'avait décrits hors du pays. Et de voir en fait des constructions en plastique ou en ciment en fait pour représenter les animaux. Et donc un lieu qui n'avait pour moi plus rien de naturel, mais qui du coup correspondait pour les personnes qui m'accompagnaient à quelque chose d'important à aller visiter. Alors ce qui est frappant en fait au niveau de cette cascade, c'est que tout a été reconstruit de manière artificielle. Les arbres sont en ciment, les animaux sont en ciment, les ponts sont en ciment, c'est plus du bois. Et il y a un parcours avec des petits bateaux pour aller se faire photographier au plus près de la cascade. Et ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que dans ce lieu-là, il n'y avait plus aucune vitalité. Alors qu'on est là face à une source d'eau, quelque chose normalement d'assez puissant dans la montagne, et ben j'ai ressenti, tout comme dans toute cette traversée, au milieu de ces routes, etc., l'impression de vide, de mort, qui était toujours hyper présent. Et finalement, ce que ça amène aussi sur cette violence faite au paysage et au territoire, c'est l'importance d'une forme d'écocide qui a été commise au Kurdistan irakien. c'est-à-dire la volonté de Saddam Hussein de détruire l'environnement pour toucher l'homme qui y habitait. Et ça, c'est encore visible. Et c'est visible parce que autant on crée des lieux artificiels de relations entre l'homme et la nature, comme cette cascade, autant on conserve des zones dans lesquelles on peut voir les marques de cette violence faite au paysage, en conservant, en fait, il y a des grands cimetières, ou alors il y a des grands terrains vagues parce qu'ils sont encore minés, ou bien, voilà, on peut voir les destructions de maisons. Les personnes gardent, en fait, la clé de ces maisons où il y a encore de la peinture parce que ça servait au régime basse de QG ou je ne sais quoi. Donc on garde en mémoire et en souvenir les marques de la violence qui a été commise, et on passe pas finalement à autre chose. Donc la reconnaissance d'un écocide, ça serait aujourd'hui montrer qu'il y avait une réelle intention de nuire à l'homme en s'attaquant à son paysage, et qu'il y a un côté irréversible par rapport à ça. Parce que les personnes qui conservent encore toutes ces marques-là, je pense, peuvent attendre une réparation et une reconnaissance de ce qui a été commis là-bas. Le fait que l'environnement et les paysans aient été pris pour cible est vraiment pas quelque chose d'anodin. Et c'est vraiment important de l'avoir en tête avec les événements qui se passent aujourd'hui au niveau du Moyen-Orient et au niveau de la Syrie. Parce que l'arme du citoyen, c'est aussi la semence. Et pouvoir faire des jardins, et pouvoir être autonome, et pouvoir repartir et rebondir. La destruction des semences est un acte vraiment grave. Le fait de confisquer ensuite les semences par des mécanismes d'appropriation du vivant l'est tout autant. Donc dans ces moments de conflit et de guerre, désarmer les paysans de leur force et de leur vitalité, ça a des conséquences graves sur la possibilité de régénération des écosystèmes. Et je pense que là-dessus, il faut être convaincu que l'espoir et la résistance, elle est dans le fait de faire des jardins. Parce que ce qui a été ôté, et cette espèce de folie destructrice et meurtrière en voulant s'accaparer tout via l'argent du pétrole, c'est pas ça qui nourrit. Et ça ne régénère pas les systèmes. Il faut vraiment arriver à voir en fait ces cycles de vie avec toutes les composantes, l'homme dans l'environnement, et arrêter en fait de fractionner les choses en voyant l'économie d'un côté, l'homme d'un autre, et l'environnement de manière externe.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire et un site sur lequel vous pouvez contacter Graines et Cinéma. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation Laurence Genepin, revue de web Anne Gouzon, mixage Philippe Palares, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.